On a parlé beaucoup de résurrection et souvent au dimanche de Pâques, le message est sur la résurrection. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer, de faire autre chose et de prendre le parallèle. Pâques est souvent la journée, en tout cas le dimanche le plus important pour les chrétiens. Et j'ai pris un des jours les plus importants, si ce n'est le plus important, pour le peuple de Dieu en Israël. Et je voudrais qu'on fasse la comparaison entre les deux. Alors parfois, il y a des messages qui sont très pratiques. Et on repart avec un certain nombre de choses à faire. On dit « je veux faire ça pour mon Dieu ». Aujourd'hui, je pense que vous repartirez avec pas tellement d'actions précises. Ce que j'espère, c'est qu'on découvre un peu plus à fond, un peu plus profondément la grandeur du sacrifice de Christ et qu'on soit vraiment encouragé à l'adorer. Et je voudrais aussi que ça réponde mon message à un certain nombre de questions que certains peuvent se poser, mais... est-ce que Dieu ne pouvait-il pas pardonner sans offrir du sang, le sang du Christ? Il n'y avait pas un moyen de faire autrement. Et pourquoi on appelle Jésus l'agneau de Dieu? Donc voilà, si c'est des questions que vous vous posez, j'espère y répondre. Et donc ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le grand jour des expiations pour le peuple d'Israël. Mais avant de lire un chapitre dans le Lévitique, je vais vous reparler du tabernacle, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc il y a besoin d'une petite introduction. Hop, hop, hop. C'est pas ça. C'est ça, il faut que tu bascules. Tu mettes la présentation. S'il ne veut pas, on va faire autrement. Ouais, on a gagné la couleur. Alors, en fait, ce que je voulais vous présenter, mais peut-être un jour ça viendra, c'était vous rappeler, lorsque Dieu a conduit son peuple dans le désert, il habitait parmi son peuple et il était dans ce qu'on appelle le tabernacle ou la tente d'assignation. Et j'avais qu'un certain nombre d'illustrations pour vous rappeler cela. Et donc au milieu du peuple, lorsqu'il s'installait, eh bien il y avait le tabernacle avec une espèce d'enceinte avec des voiles. Et à l'intérieur, vraiment ce qu'on appelait le cœur du tabernacle. Peut-être que ça va venir. Pardon. C'est il affiche. Bon, on va voir comment. Peut-être. Voilà. Je continue. Parce que sinon, on va déjà que. Alors, vous aviez donc au cœur du peuple le tabernacle, une enceinte dans laquelle vous aviez d'abord un autel où étaient accomplis les sacrifices, puis une cuve d'airain où les sacrificateurs se purifiaient avant d'entrer dans la tente, une tente qui était composée de deux parties, un lieu saint et un lieu très saint. Dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs y entraient. Il y avait le chandelier, il y avait un autel des parfums, et puis une table avec 12 pains qui représentent les 12 tribus. Et puis derrière un voile, il y avait le lieu très saint, et là il y avait simplement une arche, l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y avait la manne, les tables de la loi, la verge d'Aaron, et puis au-dessus de cette arche, il y avait deux chérubins, avec ces parties de l'arche, et c'était là que Dieu était présent. En Exode 25, il est dit « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » C'est là que je me rencontrerai avec toi. Juste au-dessus de l'arche, c'est là que Dieu était présent. Et Rien que cette image du tabernacle montre toute la distance qu'il y a entre le peuple qui est à l'extérieur, mais qui ne peut pas s'approcher. Vous avez seulement les sacrificateurs qui entrent dans le lieu saint, et dans le très saint, on n'entre pas. C'est la présence de Dieu. Ouais, ça va être difficile. Ça va être très très difficile. À moins qu'on le relance. On va peut-être le relancer. Bon, c'est un petit peu compliqué. Alors on va lire Lévitique 16. Tant pis, on va. Vous avez raté la partie la plus intéressante de mon message. C'était les images. Parce qu'après, ça va être compliqué. C'est dommage. Alors, on est dans Lévitique 16, c'est un livre qu'on ne lit pas souvent. C'est pas le livre qu'on préfère. Hein. Et pourtant, c'est pour moi un des plus beaux chapitres de la parole. Parce que c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai voulu le lire aujourd'hui, c'est vraiment une figure, un type, un symbole, une préfiguration du sacrifice de Christ. Et je voudrais qu'on fasse une comparaison, on va le lire, et après je voudrais souligner certains points. On va voir ensemble, est-ce que c'est pas vraiment l'image de ce que a accompli Christ, ou est-ce que c'est différent? Et on fera une espèce de comparaison, et j'espère qu'on sera affermi, et ça montrera à quel point ce sacrifice est merveilleux. Alors on est en Lévitique 16, j'espère que vous avez trouvé, jeune des exodes lévitiques, tout au début. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, il portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et Aaron refera son taureau expiatoire et il fera l'aspersion pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Et Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum odoriférant, en poudre, et il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Je vais sauter du verset 14, pour que ce soit pas trop long. Et on passe au verset 15. Et il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Et il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. On va sauter un tout petit peu et on va aller au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire et pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc. puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. On va sauter un tout petit peu, puisqu'il y a un ensemble de rituels où derrière on va se laver, etc. Et on va aller au verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Et au verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On va faire un tout petit retour en arrière. Maintenant que vous avez les images, c'est très dommage que vous ratiez les images. Si tu veux cliquer. Ah, ça revient. Vision du tabernacle avec cette enceinte, avec des rideaux, et puis une cuve d'airain. On peut pas faire plus clair. Ouais. Et puis le tabernacle avec la tente composée du lieu saint et du lieu très saint. Et donc, à part lorsque quelqu'un venait offrir un sacrifice, ce peuple, il est dehors. Les sacrificateurs sont à l'intérieur. Et lorsqu'il y a un sacrifice qui est fait, les gens du peuple venaient à l'intérieur. Et puis, dans la tente, seul le sacrificateur entre. Si tu veux appuyer, voilà, un petit peu plus près, on va passer à celle-là. Là, on voit à l'intérieur, de la tente, les deux parties avec le lieu saint, où le sacrificateur entre, et puis à l'arrière, le lieu très saint, où il y a l'arche. Et si tu veux appuyer encore une fois, ouais, je ne sais pas, c'est peut-être un peu loin pour vous. Et donc voilà, vous avez ce voile, ce rideau qui sépare les deux, et derrière l'arche de l'Alliance, là où Dieu résidait. C'est pour ça qu'on l'appelle le lieu très saint. Et encore une photo supplémentaire. Voilà. Alors cette représentation, c'est pas tout à fait ça. Certains l'ont imaginé comme ça, en tout cas un coffre, et puis deux chérubins qui se regardent, et entre les chérubins, au-dessus du propitiatoire, c'est là où Dieu a dit, c'est là que je vous rencontrerai, c'est là que je siège. Et c'est pour ça que dans le lieu très saint, on n'entre pas. Voilà, en hébreu 10, il est dit que c'est une ombre des biens à venir. Ce qu'on a lu, c'est une ombre, c'est une figure de ce qui s'est passé avec Christ. Et je voudrais qu'on regarde l'ombre pour mesurer toute la beauté de Christ. La première chose que je voulais qu'on mesure, c'est que Dieu est saint. Et que le péché dans la présence de Dieu, c'est la mort. On pourrait juste redire quelques versets au verset 2, je ne sais pas si vous avez noté ça. Il est dit, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire, de peur qu'il ne meure. Fut-il sacrificateur, on n'entre pas dans la présence de Dieu, parce qu'on est pécheur, et donc c'est la mort. Alors pour qu'il puisse, parce qu'on va voir qu'il va rentrer une fois par an dans le lieu très saint, et le fait qu'il est pécheur, mais il va quand même rentrer, Dieu permet ça, il va premièrement se purifier, on a vu qu'il va mettre des habits particuliers, il va se laver, avant de porter le sang pour le peuple, il va sacrifier un taureau pour lui-même, pour que Dieu accepte qu'il entre dans le lieu très saint. Et je voulais vous faire noter un petit détail, verset 13. Verset 13, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Dieu a même prévu ce petit détail, qu'il y ait ce parfum et qui crée une nuée, ce qui fait que le souverain sacrificateur ne voit pas le propitiatoire. Il est comme masqué par cette nuée en fait. Des fois, on a du mal à mesurer la sainteté de Dieu. Pour moi, c'est un magnifique exemple de la sainteté de Dieu. Dieu est saint et je ne peux pas être en sa présence. Et j'imagine que si le souverain sacrificateur n'avait pas fait tout cela et entrait, il aurait été pulvérisé, j'en sais rien, il serait mort sur place. Ça, c'est pour le peuple d'Israël. Et pour nous, est-ce que les choses ont changé? Oui et non. T'as dit oui, c'est après. Pour l'instant, pour moi, c'est pareil. T'as dit oui, c'est pareil.
Mais juste.
Pour nous, c'est pareil parce que Dieu est le même. Dieu est saint de la même manière. Il est le même éternellement. Et on a un certain nombre de versets qu'on a là, on peut s'en réitérer en Lévitique. Qui peut lire 1 Pierre, si vous avez cherché 1 Pierre 1,15 ? On voit que Dieu va redire qu'il est saint. Je suis saint, c'est Dieu qui dit je suis saint. Et de la même manière, le salaire du péché, c'est la mort. La sainteté de Dieu fait que, pécheur, ma seule destinée, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si tu m'appuies. Deuxième point que je voulais soulever, c'est que. Et c'est pour répondre à la question, mais est-ce que Dieu ne pouvait pas pardonner autrement? Moi, quand on me demande de pardonner, ben voilà, je dis, ben ok, c'est bon, je passe par-dessus la faute, et puis c'est bon, j'en parle plus. Dieu ne peut pas dire à son peuple, dire, ben voilà, je vous pardonne, j'oublie vos péchés, et puis, voilà, essayez de faire mieux quelque part, parce que c'est pas brillant, mais je vous pardonne, c'est tout. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Parce que Dieu est un Dieu de justice et que le péché mérite jugement et Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Donc il va être juste dans la solution qu'il propose. Et ce qu'il propose, c'est cette solution, ce que j'appelle une solution d'amour, c'était le jour des expiations. Alors le mot expiation, c'est un mot un peu barbare. En tout cas, c'est pas un mot qu'on emploie beaucoup de nos jours. Alors j'ai cherché un peu des définitions. C'est lorsqu'il y a une faute, et donc il y a une peine pour payer cette faute, et bien c'est cet acte-là. C'est payer pour la faute de quelqu'un, et souvent c'est pour un autre. Et donc la solution que Dieu propose est de ne pas simplement passer par-dessus. Le péché est là. Dieu est juste, alors le péché doit être expié. Et on voit dans Lévitique un certain nombre de sacrifices d'expiation, où voilà, il doit y avoir une juste peine pour le péché. Et pour nous, c'est pareil ou c'est pas pareil? C'est pareil. Et donc Dieu est juste, il ne peut pas simplement nous pardonner s'il n'y a pas une expiation, c'est-à-dire que le péché, la conséquence du péché tombe sur quelqu'un ou quelque chose. Sinon Dieu n'est pas juste. Alors on va lire Romains 3, 21-26.
De Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, ont été manifestés indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Tu peux continuer ?
Oui, pardon. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il a démontré.
Il montre ainsi.
Il a démontré dans les temps présents de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus.
Et la dernière phrase, c'est de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il nous a justifiés, mais il l'a fait en étant juste. C'est-à-dire que chaque péché mérite un châtiment. Et je voudrais insister sur ce point, c'est que dans le sacrifice de Christ, éclate à la croix trois choses. La sainteté de Dieu, parce que Dieu ne peut tolérer le péché. Sa justice, parce qu'il le fait avec une solution qui est juste. Et le simple péché n'est pas seulement balayé, il y a un châtiment qui tombe. Et enfin, l'amour et la grâce, parce qu'il le fait parce qu'il nous aime. Mais les trois sont là. Mais pour expier, c'est-à-dire que pour la faute, pour qu'une faute soit payée, pour que ce soit là, le... qu'est-ce qui peut permettre qu'une faute soit payée? Ce qu'on voit en Lévitique, c'est que seul le sang d'un bouc qui est sans défaut, sans tache, peut faire l'expiation et va satisfaire la sainteté, la justice de Dieu. Et c'est pour ça que le souverain sacrificateur va sacrifier ce premier bouc. Vous voyez qu'il y en a deux, on verra le deuxième après, mais le premier, il le sacrifie, il prend le sang, il va jusque dans le lieu très saint, et il va faire l'aspersion, asperger du sang, juste devant la présence de Dieu, devant le propitiatoire. Et c'est ça qui va faire que les péchés sont expiés. C'est seulement le sang d'un agneau pur, parfait. Alors, le sang, c'est pour ça toute l'importance du sang, il est là, il est démontré là. Juste en Lévitique 17, verset 11. C'était juste pour montrer l'importance du sang. Le sang, c'est le symbole de l'âme et de la vie. 17, verset 11, « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » C'est pas simplement le sang lui-même, c'est pas l'aspect physique du sang. C'est que le sang, c'est symbole de vie, symbole de l'âme. Et donc, ce sang qui fait aspersion sur le propitiatoire, c'est ça, le sang d'un agneau pur, sans tache, c'est ça qui va faire l'expiation. Et pour nous, c'est pareil ou c'est pas pareil? C'est pareil. C'est pareil parce que seul le sang d'un homme parfait, sans aucun péché, peut satisfaire la justice de Dieu. Aucun autre homme ayant péché ne peut faire un sacrifice qui libérerait des péchés. Il n'y a que ce sang d'un homme parfait, sans péché. J'ai mis trois versets, on peut lire, je ne sais pas, un de ces trois-là. 1 Pierre 1,18, qui veut nous lire 1 Pierre 1,18.
Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or.
Continue.
Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous.
J'ai pas la même traduction, mais c'est ça. Enfin, c'est le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et puis, juste en Matthieu 26, et ça, c'est le moment de la Sainte Cène où il est dit, « Il prit enfin une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. On va passer au point suivant. C'est le souverain sacrificateur qui va prendre ce sang de cet agneau et qui va l'amener dans le lieu très saint et qui va le présenter à Dieu pour que Dieu agrée ce sacrifice. Est-ce que c'est pareil pour nous ? Oh, c'est pareil ou pas pareil ? Ah ben c'est déjà affiché. C'est pareil. C'est pareil. Et c'est une anticipation de ce qu'on va lire en Hébreux 9, verset 11, si vous voulez le chercher. Si quelqu'un veut le chercher.
Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et le jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel.
Ce qu'on voit en Lévitique 16, c'est simplement une pâle imitation, une ombre, du moment où Christ va, il est à la fois le serviteur, le souverain sacrificateur, qui va présenter à Dieu, à son propre Père, avec son propre sang. On a du mal à mesurer la profondeur. Il est à la fois celui qui est sacrificateur et à la fois l'offrande. Et dans un tabernacle qui est spirituel, qui n'est pas de cette création. Le point suivant, c'est que le peuple, il fait rien. On lui demande une seule chose, c'est d'humilier leurs âmes. On peut le relire, c'est au verset 29. Verset 29-30. C'est ici, pour vous, une loi perpétuelle au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Pendant dans ce jour-là, ils ne font rien. Le sacrificateur présente le sang. Eux, ils ont humilié leurs âmes. Et pour nous, c'est pareil ou pas pareil ? Pareil ? C'est pareil. Parce que c'est pareil. La grâce, le salut n'est pas pas ce qu'on fait. C'est Dieu qui le fait, c'est Jésus-Christ qui l'a fait pour nous. Il y a une chose qu'on nous demande comme là. Là, il était parlé d'humilier son âme, leurs âmes. C'est la repentance. Et c'est de croire. Pas tout à fait la même chose, mais on est proche. Dans le sens, et je voudrais juste prendre le temps de, pardon, pour ceux qui, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait ce choix fondamental d'humilier son âme, de se repentir et de faire ce choix, ce qu'on voit dans ce qu'on a lu, c'est qu'il y a deux nouvelles pour vous. Il y a une mauvaise nouvelle. C'est que Dieu est saint et que Dieu est en colère. Il est en colère parce qu'il ne peut pas supporter le péché. Et qu'un jour, pour tout pécheur, c'est la mort. Mais il y a une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. C'est que Dieu a choisi un moyen extraordinaire, c'est de faire mourir son Fils à votre place, à ma place. Et comme ça, il est juste. Et à ce moment-là, vous êtes totalement purifié. Et donc il faut saisir cette bonne nouvelle. C'est aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait. On va passer au point suivant. S'il y a deux boucs, alors le deuxième bouc, On va relire parce que pour moi c'est un passage magnifique. Et au verset 20, et lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions sur lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre aride. Imaginez cette scène, je trouve cette scène magnifique, du sacrificateur qui place ses mains sur ce bouc, qui confesse l'intégralité des péchés sur ce bouc, et le bouc est lâché au désert et il emporte les péchés. C'est pareil pour nous ? Et oui, c'est pareil pour nous. Christ a confessé chacun de mes péchés, et ils sont nombreux. Chacun de vos péchés, comme étant les siens, il les a portés. Alors, après Dieu me purifie et il éloigne. On pourrait lire ce verset, ça doit être Jérémie 31, verset 34. Je crois que c'est celui-ci. Non, psaume 103, verset 12. Il y en a plein, mais psaume 103, verset 12.
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
Voilà. Ils sont partis au désert. Pour les théologiens, c'est ce qu'on appelle la substitution. Christ s'est substitué à moi. Et là, on voit les deux facettes parce que, comme c'est qu'une ombre ce qu'on est en train de lire, c'est pas Christ, c'est qu'une ombre. Donc vous avez deux boucs parce que c'était pas possible de représenter ce qui est Christ. Donc vous avez un bouc qui est agneau parfait, dont on va sacrifier, dont on va offrir le sang devant Dieu. Et vous avez un autre bouc qui est celui sur lequel on confesse les péchés et qui est emporté au désert. Il y a besoin de ces deux boucs pour arriver à imager, si je peux dire comme ça, le sacrifice de Christ. C'est comme un diamant à deux facettes, il faut faire le tour pour voir toutes les facettes. On va continuer. Le sacrifice, il était fait chaque année. Voilà, et chaque année, ça revenait. C'est pareil pour nous ? C'est pas pareil pour nous. C'est pour ça que c'est rouge. C'est pas vert. Symbolé. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. On pourrait juste lire, par exemple, le premier, Hébreux 9, 24, si...
n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souffrerait un sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.
Merci. Une seule fois. Juste ces paroles de notre Seigneur sur la croix, tout est accompli. Il n'y a rien de plus à accomplir. Et on n'a pas parlé de la résurrection, parce qu'on ne la trouve pas, évidemment, la résurrection dans le Lévitique, dans le peuple d'Israël. Mais la résurrection, elle atteste de cela. Elle atteste que le sacrifice est pleinement suffisant, que Dieu agrée ce sacrifice. Et c'est la preuve que, voilà, Dieu est pleinement satisfait. On va passer au dernier point. Le sacrificateur, il sort du lieu très saint. Il ressort, Dieu, hop, il voile. Je ne suis pas sûr que mon truc est tout à fait juste. C'est pareil pour nous, Massive. Non, c'est pas pareil pour nous. Alors, je ne l'ai pas mis en plus, c'est là où j'ai mal fini mon message, c'est qu'il y est resté, on le voit dans l'Épître aux Hébreux. Mais je voulais souligner que ce voile qui était la dernière barrière avant la présence de Dieu, qui ne devait jamais être franchi, à part ce jour exceptionnel, avec beaucoup de précautions, pour que le sacrifice sacrifice ne meure pas, ce voile est déchiré. Et on pouvait lire en Matthieu 27, juste au moment où notre Seigneur pousse un cri avant d'expirer, juste après. Matthieu 27, verset 51.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Voilà, le voile a été déchiré. Et donc cette barrière, cette protection quelque part vis-à-vis de la sainteté de Dieu a été enlevée à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et je vais lire Hébreux 10. Hébreux 10, 19 qui dit « Ainsi donc nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Il n'y a plus de distance. Autant Dieu était éloigné à cause de sa sainteté, mais maintenant par le sacrifice, tout est complètement ouvert et Dieu nous accueille et nous invite à nous approcher, à entrer dans son intimité. Il n'y a rien de pratique dans mon message. Vous n'allez pas demain dire « je vais faire ça ». Je voulais qu'on contemple la grandeur de sacrifice, la perfection de ce sacrifice avec une ombre, celle de l'Ancien Testament. Je voulais juste terminer. Si vous n'avez pas fait ce choix, je vous le redis, c'est aujourd'hui. Mesurez la profondeur de sacrifice pour vous. Oui, ça c'est pratique, ok, ça marche. Tu as raison, c'est très pratique. Certains, c'est du pratique, oui. Et si vous le connaissez, voilà, que cela nourrisse votre adoration et par là votre engagement. Il a tellement donné qu'en retour, on ne peut rien lui refuser. On doit tout lui offrir. On va chanter un chant, si on peut préparer le je crois qu'on chante le J'aime 57, qui correspond à ce verset-là. On va qu'on chante le J'aime 57.
À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, à son sang, et qui a fait de nous un royaume de Yeah.